Phil PM. La voix est libre.
I also want to speak to you without the filter of the fake news. The dishonest media, which has published one false story after another, they just don't want to report the truth.
Voici Luc Lavoie.
Fake news. Autre tirade de Donald Trump contre les médias qui rapportent des faussetés, des fake news, comme il dit. Et là, je suis en train de me demander, mon Luc, si avec les chiffres que tu vas nous présenter, si c'est pas la victoire de Donald Trump.
D'abord, j'aurais voulu voir... Je vous donne les chiffres.
Ouais.
Les Canadiens, il y en a 37 % à travers le Canada qui font confiance aux médias. Puis au Québec, le chiffre est quand même assez différent. Là, c'est 49. Donc, 12 % de plus.
Mais t'as quand même la moitié des Québécois, puis tout près du 2/3 des Canadiens qui ne font plus confiance aux médias.
Et ce qui est également très inquiétant dans ça, enfin, si cela vous inquiète, les plus jeunes semblent davantage craintifs, eux autres. C'est seulement 27 % qui leur font confiance. 27 % Alors, c'est donc un dur constat, mais d'ailleurs, un constat qui ne m'étonne pas.
Bon, okay? Juste avant que tu nous dises pourquoi, je vous le dis, là, pensez-y, on va prendre des appels, puis quelques courriels et textos. La question est bien simple. Est-ce que vous faites confiance aux médias? Est-ce que vous faites encore confiance aux médias? Je vais avoir votre opinion là-dessus. Mais toi, t'es pas surpris. Pourquoi t'es pas surpris?
Parce que on est passé très, très rapidement, mais très rapidement sur une période de 20 ans d'une époque où on recevait notre journal à la porte. Puis il y avait même des journaux d'après-midi à l'époque.
Ben
il y avait
un
journal du matin. Puis on avait nos bulletins de radio clés, là, tu sais, le matin, puis à midi, puis tout ça. Puis nos bulletins de télé clés. C'était là, l'information nous était présentée comme toute bien préparée.
Avec du temps pour préparer, pour que les journalistes aient le temps de vérifier leurs infos.
Aussi, mais il y avait une hiérarchisation de l'information en une, c'était bon. Et là, à un moment donné, tout ça s'est fractionné, tout ça a explosé.
Avec Internet.
Avec Internet, et tout ça est parti dans toutes les directions. Et à un moment donné, on a atteint ce point, et c'est certainement le cas des gens qui... je pense, par exemple, à ceux qui ont maintenant 35 ans.
Oui.
Ça veut dire que quand le boom de l'Internet a parti, là, c'était des jeunes adolescents. Là. Alors, eux autres, ils n'ont pas connu d'autre chose que le monde qu'on a présentement. Puis le monde qu'on a présentement, ben, ils nous offrent pêle-mêle. Le New York Times, référence absolue en journaliste.
Incroyable.
Puis Breitbart, une espèce de poubelle de l'extrême droite américaine. Puis après, mais tout ça nous apparaît tout semblable. Ça arrive tout sur le même...
Sur le même fil de Facebook.
Sur le même fil de Facebook. Puis toutes sortes d'autres fils comparables. Alors, qu'on fasse plus confiance, je comprends. Mais moi-même, j'ai pas très confiance, Bernard. Et ce que je lance comme... Je suis un...
T'es un gars, t'es un journaliste de formation. Ouais, comme moi, d'ailleurs, là-dessus, on est pareil.
Puis j'en lis tout le temps, Mais je peux vous dire que pour que j'aie confiance, il faut que j'aie plus qu'une source. D'informations, je veux dire. Je peux pas dire, moi, j'ai lu ma presse aujourd'hui, ou j'ai lu mon journal de Montréal, ou j'ai lu mon Globe and Mail. Non. Pour que j'aie confiance, je veux voir comment la couverture se module d'une place à l'autre. Ensuite, tu sais, il faut diversifier ses sources. Puis quand une source nous apparaît complètement inconnue, vérifiez donc. Ou ben, on va laisser faire. Quand la nouvelle est un peu weird, quand la nouvelle est un peu bizarre, puis elle vient d'une source bizarre. L'autre fois, j'ai failli me faire prendre sur ma propre page Facebook. C'est ma fille qui m'a attrapé au moment où j'allais le faire. Il y avait une photo du Fouquet à Paris qui était en feu.
Oui.
Parce que
les gilets jaunes avaient mis le feu dedans.
Puis l'affaire était divisée en deux. Puis de l'autre côté, tu voyais Emmanuel Macron, son épouse, puis un groupe d'amis sur une espèce de terrasse à travers les Alpes françaises où il était habillé avec des vêtements de ski. Puis tu voyais Macron qui versait un verre de vin. Et ce que me disait le site qui m'envoyait ça, sans que j'y porte trop attention, c'est que les deux photos ont été prises précisément au même moment. Là, Alexandra, ma fille, me dit « Es-tu sûr de ça? Regarde la source, je suis pas sûr que c'est vrai, moi. » C'est vrai qu'il faisait du ski dans les Alpes, là, mais que cette photo-là a été prise en même temps que le feu était pris au Fouquet. Tout d'un coup, que c'est pas vrai. Puis là, tu te dis, mais c'est même trop vrai. Il faudrait que je fasse attention.
Ça nous oblige à être beaucoup plus critiques.
Beaucoup plus vigilants, beaucoup plus critiques. Et moi, j'essaie de voir le beau côté de l'Internet. Autrefois, les gens de Montréal, par exemple, s'ils voulaient lire des choses un peu plus, disons, externes au Canada, que ce soit le New York Times, Le Monde, il fallait que tu ailles au vieux métropolitain, là, qui était pas loin de la rue Peel, à côté du Windsor. Là. Mm. Puis là, tu trouvais ton New York Times, ton Washington
Post.
Ton Guardian.
Ton mais, monde, oui.
Alors que maintenant, tu pèses sur un piton, puis tu l'as, là, ça. Donc, mes sources sont plus grandes, mais il y a beaucoup de sources qui sont absolument pas fiables.
J'allais
dire. C'est de la fabrication pure. Puis, je comprends les gens d'avoir perdu confiance. Ils ont lu toutes sortes d'affaires là-dessus, puis ça continue, ça. Hein. Tous les jours, je tombe sur quelque chose qui est un peu... Hein, qu'est-ce que c'est, ça, cette histoire-là? J'ai pas confiance moi-même, sauf que... Et là, il y a une autre espèce de débat-là, Bernard. Tu prends le New York Times, le phare du monde de l'information.
Oui.
Mais le New York Times, c'est également un style. Hein? Le New York Times, il penche à gauche passablement.
Oui.
Alors que le Wall Street Journal penche plutôt à droite.
D'accord.
Les deux font de l'excellent journalisme. Mm-hmm. Mais si tu te cantonnes à un, il te manque un morceau de l'équation, tu comprends? Aller lire les éditoriaux puis les columnistes du Wall Street Journal, c'est très, très éducatif. C'est formidable d'avoir accès à ça. Avant, on ne l'avait pas. Alors, moi, je pense que ça, c'est le beau côté, c'est le côté positif de ce que l'Internet a amené. Le côté plus négatif, c'est cette impossibilité de différencier, ou pas impossibilité, mais cette...
Entre le vrai et le faux. Le vrai et le faux.
Ouais,
OK,
ouais.
Là, on commence à avoir quelques appels, me dit-on. C'est Marc. Bonjour, Marc.
Hey, salut, les deux dinosaures de l'information.
Ben voyons, toi.
Non, mais écoutez, c'est que vous êtes les derniers des Mohicans. Ça n'existe plus, le vrai journaliste. Vous êtes ceux qui restent.
Pourquoi vous dites ça?
Ben écoutez, là, vous venez de dire, quand tu dis que le seul qui a peut-être un peu de crédibilité, c'est le Wall Street Journal, parce qu'on cherche pas de sensation dans le monde de la finance, en tout cas, du moins que maintenant. Là, c'est la course au scoop, c'est la course à la nouvelle, qu'elle soit vraie ou pas vraie. On veut être le premier à en parler, à en sortir, à la couvrir.
Ben moi, j'aimerais vous dire, Marc, moi, j'aimerais vous dire que je travaille pour des organisations d'information. Là. Oui, il y a une course au scoop, mais quand je travaillais là-dedans, il y a 30 ans, il y avait une course au scoop. Les scoops, ça a toujours été l'exclusivité, ce qu'on veut amener de nouveau que les gens ne savaient pas. Ça n'a pas changé, là. Vous avez tort.
Non, mais M. Lavoie, c'est pire maintenant avec les médias sociaux. Tout le monde peut s'improviser journaliste.
Ah ben oui, ça, vous avez raison.
Tout le monde, là, la nouvelle est là. Puis ce qu'il y a de pire là, là-dedans, c'est que quand la nouvelle, elle est fausse, puis que ça fait 24 heures qu'on vire sur une fausse nouvelle, on prend pas 24 heures à expliquer au monde à quel point qu'on était dans le champ la veille.
Vous avez raison.
Prenez Donald Trump maintenant, là, qui a gagné là, la grosse victoire d'hier. Là. Ça fait 2 ans qu'on nous dit qu'il va sortir de quoi de terrible, puis qu'on fait des spéculations, et ça finit plus. Il y en a plusieurs là, qui sont à terre aujourd'hui qui disent ben voyons donc, il y avait raison, le mot t'a dit,
c'est horrible. Non, vous avez raison.
Moi, je vais vous dire, les gars, une prédiction, là. Avec la gang de gauchistes qui est au parti démocrate, je suis sûr que les Canadiens se virent dans le tombe en ce moment, là.
Mais c'est autre chose. Là. On s'écarte un peu du sujet. Le fait est que
M. Lavoie, c'est l'effet pervers de la chose.
Oui, sans doute, mais...
Les gens qui ont perdu confiance, puis qui vont donner leur confiance à Trump. C'est lui qui avait raison. Vous allez voir, il va rentrer terriblement fort en 2020, à moins d'un tournage spectaculaire.
C'est intéressant. On pourra en débattre plus longuement.
Parce qu'on a eu beaucoup de réactions, Luc. Je vais dire merci, Marc, pour l'appel. J'ai eu beaucoup de réactions sur texto, notamment, là. À la suite de cette décision-là, il y a des auditeurs qui nous écoutent, là, qui sont des pro-Trump, OK?
Mm-hmm.
Et qui nous ont mis un petit peu, si tu me permets l'expression, notre nez dans le caca, en disant, tu vois, toi, là, Drainville, puis toi, Lavoie, là, vous arrêtez pas de bâcher Trump, vous arrêtez pas de rapporter ce que les médias libéraux, entre guillemets, rapportent sur
les
Trump,
les mainstream, etc. Les médias traditionnels.
Et là, finalement, vous êtes un peu... comment dirais-je? Vous avez fait la preuve par votre billet anti-Trump qu'on pouvait pas se fier sur vous autres. Puis l'enquête de Mueller est venue prouver, dans le fond, que c'était tout ça, c'était juste un écran de fumée. C'était une belle campagne pour dénigrer Trump. Mais dans le fond, là, vous avez été un petit peu complice de ça. Et là, vous vous êtes fait prendre des culottes à terre.
Je résume un peu, là.
Ouais,
oui, c'est vrai. T'sais? Mais je tiens quand même à dire que moi, j'ai jamais cru qu'il allait trouver de la collusion avec la Russie. J'ai toujours dit ça depuis le début de l'enquête. Ça ne veut pas dire que j'admire Trump.
Non, je
trouve que c'est un grossier personnage, un ignare, un être vulgaire qui n'a aucune espèce de compréhension des affaires du monde, qui est en train de foutre le bordel un peu partout. Mais sur l'enquête Mueller, je ne voyais pas comment il allait prouver la collusion. Pour le reste de ce que contient ce rapport-là, on l'a pas vu. J'aimerais bien ça le voir.
Tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent présentement là, puis qui me disent c'est sûr que Internet a changé la donne, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, il y en a un qui dit « Je fais confiance aux médias, mais je diversifie mes sources, car les médias sont de plus en plus sensationnalistes. Ils sont aussi une source d'amplification de certains problèmes qui, parfois, mènent à une radicalisation. »
Des opinions.
Ça se peut, ça.
Il y a plus de columnistes, c'est-à-dire des chroniqueurs aujourd'hui qu'à l'époque où on pratiquait le journalisme.
Au début, il n'y en avait pas de chroniqueurs, ou si peu, il y avait les éditorialistes et il y avait Pierre Foglia et une couple d'autres. On s'entend, hein?
Tandis que maintenant, les journaux sont pleins de ça. Ben, pourquoi? Il y a une raison derrière ça.
C'est parce que les gens veulent de
l'opinion. C'est parce que la nouvelle... Autrefois, là, je me levais le matin, j'ouvrais la porte d'en avant, puis je prenais le journal qui était là, puis là, j'allais voir comment est-ce que la game de hockey s'était terminée, puis comment ça s'était passé à l'Assemblée nationale. Or, le matin, quand je me lève, je suis au courant de tout ça, moi. Parce que ça m'arrive en direct par des alertes nouvelles, pas dingue.
Jusqu'à ce qu'on se couche, on est sur nos réseaux sociaux, on est sur Internet.
Surtout dans notre métier.
Dernière affaire qu'on fait, on regarde notre téléphone intelligent avant de fermer les lumières.
Oui, alors les médias traditionnels qui ont voulu étirer leur temps de vie, parce que ça achève, là, dans le cas des médias papier en tout cas,
ils
ont amené des chroniqueurs, puis de plus en plus punchés, puis de plus en plus spectaculaires. Il y a du vrai dans ce que dit la personne qui t'a écrit.
Voilà. OK, on s'arrête. Okay. Parce qu'au retour, je veux qu'on parle de cette déclaration. C'est à peu près passé inaperçu, là. Mais Charles Lecavalier, journaliste au Journal Québec, là, lui, l'a vu passer, puis il l'a rapporté hier, là.
Oui.
Vous ne l'avez pas vu passer, mais le ministre des Finances, Éric Girard, a déclaré que vous n'aurez pas de baisse d'impôts avant 2024. Avant 2024, oubliez ça, les baisses d'impôts, vous allez comprendre pourquoi.
Puis la CAQ s'est fait élire en promettant des baisses d'impôts.
En permettant la baisse du fardeau fiscal. Tu vas voir, ils font une distinction entre les deux.
C'est ça. On nous niaise.
On va en parler après la pause.
Drainville PM. La voie est libre.
Quand on parle de réduire l'impôt sur le revenu, ça, ça va dépendre de l'état de l'économie, des finances publiques, mais on sait qu'on va atteindre nos cibles de dette autour de 2024.
Voici Luc Lavoie.
Éric Girard, hier, le ministre des Finances, qui a dit essentiellement, oubliez ça, une baisse d'impôt d'ici 2024, parce que l'objectif d'ici 2024, c'est ramener la dette du Québec à 45% de l'économie, 45% du PIB. T'es pas content, hein?
Non.
Toi, t'es pas content.
Non.
Toi, t'es pas content. Moi, je vais te dire pourquoi je suis à la fois pas content et content. Mais je vais t'écouter d'abord.
Moi, je suis pas content parce que la CAQ, ils répètent depuis des années par la bouche de son chef puis de ses divers porte-parole qu'une des affaires qu'ils veulent, c'est alléger les taxes, baisser les taxes. Ils utilisent le mot taxe.
Ils ont baissé les taxes scolaires.
Oui, je le sais. Mais. Moi, j'ai hâte qu'un gouvernement qui se fait élire me dise « Regarde, on va s'attaquer à l'impôt sur le revenu. » C'est ça qui fait le plus mal. Puis c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. C'est pas en me mettant 12$ dans mes poches en faisant une affaire sur les permis de chasse puis me mettant... Ouais. C'est pas ça là, que je veux. On m'a promis des baisses de taxes puis les taxes que je paye le plus, là, il y en a les taxes qui sont le pire, là, c'est les taxes sur le revenu. Et ça, les taxes sur le revenu, ça n'a jamais été une bien bonne chose pour l'économie. D'ailleurs, ça avait été...
Surtout dans une époque où on veut que les gens travaillent, on est en pénurie de main-d'œuvre, on veut que les gens en fait fassent des heures supplémentaires, idéalement, là, mais ils payent tellement d'impôts sur le travail qu'ils n'ont pas le goût d'en faire.
Et c'est pourquoi, évidemment, la taxe, la TPS puis la TVQ, c'était une grave erreur de la part de Harper d'aller la baisser, la TPS de 2 points de pourcentage, parce que la taxe est reconnue, là, tous ceux qui ont étudié la question, là, la taxe sur la valeur ajoutée qui est en fait, cette taxe à la consommation est beaucoup plus juste et elle encourage le travail.
Oui,
elle t'encourage à travailler davantage.
Parce que t'es taxé sur ta consommation, pas sur ton travail.
Oui, puis je veux dire, elle est naturellement juste parce que quelqu'un qui s'achète une Mercedes de 60 000 $ va payer pas mal plus de taxes que celui qui s'achète une Hyundai Accent de 14 000 $
D'accord.
Et celui qui achète du filet mignon puis celui qui achète du steak de ronde, la différence fait que tu payes plus.
Moi, je vais te donner ma position, Star. Ouais. Je vais te dire, d'abord, je reconnais, parce que je l'ai entendu, j'étais en chambre, là, Legault se lever jour après jour puis attaquer les libéraux sur le fait que le fardeau fiscal était trop élevé. Oui. Et je redis, ils l'ont baissé, le fardeau fiscal, avec la baisse des taxes scolaires et la baisse des frais de garde. Mais j'ai compris comme toi que ce serait beaucoup plus que ça. C'est sur la forme, donc. Là, je leur adresse un reproche. Mais sur le fond des choses maintenant, Luc, si tu me demandes de choisir entre une baisse d'impôts puis une baisse du fardeau de la dette, je choisis de baisser la dette. En d'autres mots, sur le fond des choses, je suis d'accord avec le choix de la CAQ. J'aime mieux qu'ils ne baissent pas mes impôts et qu'ils baissent la dette pour qu'on en laisse moins de dettes à nos enfants et qu'à partir de 2000...
C'est valable comme position. Hein, c'est très valable.
Je suis très conservateur fiscal dans ce sens-là.
Parce que le service de la dette, lui, il faut qu'il baisse.
Oui.
Il faut que ça baisse. Parce que c'est de l'argent garoché en l'air.
Ben, c'est de l'argent...
Là-dessus, on est bien d'accord. Mais comme tu le dis toi-même, pénurie de main-d'œuvre,
oui.
Les gens qui sont à la retraite à 61 ans puis qui seraient prêts à reprendre le travail s'ils n'étaient pas obligés de se départir de je ne sais pas quoi puis de payer de l'impôt là, puis ainsi de suite. C'est une taxe contre le travail, la taxe sur le revenu. J'aimerais mieux un meilleur équilibre, mais je ne vois pas le gouvernement Legault avoir le courage de dire on va monter de 1 ou 2 points la TVQ puis on va
pour baisser
l'impôt sur le revenu.
Non.
C'est parce que ça prend un certain courage pour faire ça.
Parce que les gens sont sceptiques. Moi, je vais te le dire, là, je le sais, parce que je t'ai élu à ce moment-là. C'est le rapport, dans le fond, du comité Godbout. De Godbout. Et les gens, sais-tu ce qu'ils me disaient dans le comté, notamment à Longueuil? Ils me disaient, ouais, on sait bien, vous dites ça, vous allez augmenter la taxe à consommation puis baisser nos impôts, mais en bout de ligne, ils vont monter la taxe à consommation puis ils n'auront pas baissé nos impôts. Fait que manger de la chenoute.
Ben oui, c'est pour ça que les deux doivent être faits simultanément.
Ouais, mais les gens croient pas que ça va se faire
simultanément. Oui, mais il faudrait qu'un jour, ça se fasse simultanément.
Ils pensent que c'est une opération, dans le fond, pour venir en chercher plus dans leur poche. Mais je vais te dire une chose, il me reste quelques minutes. Si ça vous tente de nous appeler 790-9850 pour me dire, à choisir entre baisser les impôts sur le revenu, OK, et baisser la dette. Qu'est-ce que vous préférez?
Y a-t-il un point d'équilibre?
Ben moi, je veux... Non, mais là, je veux... Je t'oblige à choisir.
Oui.
Entre baisser tes impôts puis baisser la dette.
Moi,
je te donne le choix entre les deux.
Je fais un peu des deux.
Non, Luc, je te demande de choisir. Tu peux pas avoir le bord de l'argent. Tu baisses la dette?
Oui.
Moi aussi, je baisse la dette.
Bon.
Bon, mais là-dessus, on est. Pourquoi?
Mais fiscalement, je change le système un peu.
OK. Ce que tu dis, c'est qu'avec la même quantité d'impôts payés, impôts-taxes dans le même pot,
j'arrête de taxer le travail.
Je rééquilibre. J'augmente les taxes et je baisse les impôts.
Voilà.
Bon, là-dessus, je suis parlable. Oui. Là-dessus, je suis parlable, Luc.
Mais parce que, effectivement.
Parce qu'il faut récompenser le travail.
Il faut récompenser le travail, l'effort.
Et pénaliser la consommation, en quelque part, parce que, comme tu l'as dit, plus tu as d'argent, plus tu consommes, bien, tu devrais payer plus de taxes.
Mais c'est ça. Mais c'est la meilleure façon socialement de faire le ménage.
Maudit, il y a de quoi qui ne marche pas, là, parce qu'on est d'accord.
Non, mais on va se pogner sur d'autres choses.
On peut se pogner sur Snowden encore. Ah, ben, si
on
tu
peut
veux.
Bien se pogner sur Snowden.
Non, non,
si
on ne on fera pas ça. Mais on va y revenir sur Snowden parce qu'on a vraiment une différence d'opinion profonde, toi puis moi.
Très profonde.
Je l'ai découvert tout à l'heure en jasant avec toi, mais là, on a des appels sur impôts versus réduction de la dette. Sam, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, moi, j'ai montré les taxes parce que ça serait plus juste envers tout le monde.
Donc, vous montez les taxes, et vous baissez les impôts,
les taxes,
c'est ça?
À la consommation.
Oui, et une autre chose aussi, je suis tanné d'entendre parler de manque de main-d'œuvre. On a plein de main-d'œuvre ici qu'on ne veut même pas utiliser. Si on donne un congé d'impôt à nos personnes qui ont pris leur retraite pour le temps qu'ils travaillent, puis on leur donne pas l'argent de retraite, on le dépose dans un compte dans lequel que le gouvernement peut utiliser pour faire de l'argent avec jusqu'à temps qu'ils prennent leur vraie retraite, on ferait tous de l'argent, puis tout le monde et les main-d'œuvre vont en avoir.
Intéressant.
Sam, vous avez absolument raison. Je sais pas, je parle du principe.
Oui.
Le principe de donner un incitatif fiscal à nos retraités pour qu'ils aient le goût d'aller faire une petite journée. Tu sais, quand on se plaint de notre manque de main-d'œuvre, Luc, il y en a de la main-d'œuvre disponible.
C'est juste qu'elle est tellement taxée qu'elle veut pas bouger.
Et voilà. Ça y tente pas.
Pourquoi je travaillerais pour faire 8 piastres dans la semaine?
Ben voilà, justement. Michel, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, on vous écoute.
Oui, ben moi, ce serait la dette, parce que, de toute façon, s'ils baissent les impôts, un jour, ils vont venir le chercher ailleurs. Ça fait que, tu sais, c'est pas mieux. Là.
Ben, hein? C'est ce que disait Bernard tantôt. Vous êtes parmi les sceptiques, vous.
Oui, ben moi, c'est sûr et certain qu'on peut pas baisser, avec tout ce qu'on est surendetté.
Oui.
Puis on peut pas. C'est sûr qu'en baissant les impôts, il va falloir qu'ils le cherchent ailleurs. Puis il va manquer de l'argent des taxes. Et moi, je pense qu'à long terme, on est mieux de se faire de même.
Très bien.
Baisser la dette alors, à long terme, non?
Très bien, Michel. Merci pour l'appel. Un autre petit coup de sonde avec Marc.
Oui, bonjour, messieurs. Écoutez, moi, je crois que ça prendrait un petit peu des deux, dans le sens que réduire la dette, c'est, comme on dit, on va avoir une marge de manœuvre pour le futur. Puis en même temps, baisser les impôts, c'est dans le sens, c'est d'encourager les gens qui veulent travailler. Mais notre gros problème qu'on a au Québec, c'est que l'industrie de la pauvreté, je m'excuse, et de tous les lobbies, c'est que dès qu'on va vouloir faire une baisse d'impôts pour les travailleurs, et Dieu sait qu'avec le vieillissement de la population, on baisse en pourcentage, mais dès qu'un gouvernement veut donner une baisse d'impôts ou un break aux travailleurs, vous allez voir Québec solidaire et tous les millions de lobbies que non, au lieu de couper les impôts, c'est les riches, ben il faut donner ça à des lobbies puis engraisser un système, tu sais. C'est rendu pervers. Regardez le nombre de Québécois qui quittent le Québec pour aller réussir en Ontario ou aller réussir aux États-Unis à cause du système fiscal. Ils vont vous le dire, c'est rendu intenable. Avec le vieillissement de la population, ça va juste être pire.
On est à risque, il y a raison.
Et Marc, ça devient un frein à l'économie. Là.
Et c'est pour ça, Gérard, que je le suis, le ministre des Finances, quand il dit le vieillissement de la population...
Ça s'en vient, on est dedans. Là.
Doit rendre prioritaire la baisse de la dette parce qu'on va être moins nombreux à payer des impôts, tu veux, dans une population vieillissante. Donc, son objectif de baisser la dette, c'est bon, ça. Mais il aurait juste fallu qu'on le sache avant.
Oui, j'aurais aimé ça qu'il nous en parle avant. Moi, je pense que M. Girard, en passant, on me dit toujours beaucoup de bien de lui. C'est pas un orateur spectaculaire, tout ça, mais c'est un gars très compétent, d'après ce que je peux voir. Et surtout, quand on lit ça, au moins, on va lui reconnaître une chose, il est franc et honnête.
Oui.
Alors, parce que c'était politiquement, je suis pas sûr que François Legault s'est levé le matin puis qu'il a vu ça dans son journal. Puis il a dit,
Je peux te dire qu'il n'était pas trop content. Il y en a un qui nous dit, juste vite avant de la pause, il dit, commencez par enlever l'impôt sur le temps supplémentaire, on en aurait plus dans nos poches, puis ça aiderait avec la pénurie de main d'œuvre, me dit Frédéric.
C'est une autre modulation.
Hein? Et quelqu'un d'autre me dit, arrêtez de vous pogner, les gars, là, pognez-vous pas trop le chignon si vous voulez être ensemble à soir au Centre Bell.
On va être là, Bernard, on va être fait l'un avec l'autre.
Ben oui, ben là, on amène un auditeur avec nous.
Ben oui.
Comment
s'appelle-t-il déjà?
T'es bien mieux de donner l'exemple.
Ah, puis, je vais essayer de bien me conduire.
De conduire correctement.
Pas de doigt dans le nez, Bernard.
C'est qui qu'on amène? C'est Dominique. Dominique de Saint-Jérôme.
Bon, Dominique.
Il s'en vient, Dominique. Puis si Luc est trop mal commode, vous venez me le dire, puis je vais essayer de le calmer.
Mesdames et messieurs, j'avais offert à Bernard d'installer deux chaises au milieu de la loge, puis entre les périodes, on aurait pu se pogner aux cheveux sur un sujet ou l'autre. Snowden, je sais pas trop quoi,
je t'ai dit, on va aller sur la glace à la place des Timbits. On va aller donner un show. Alors, c'est Dominique Bourdage. On est hâte de vous voir, et j'ai hâte de te voir à soi malgré tout, mon Malcommode. On espère que ça va être une belle game et ça va être les Panthers. Puis Martin McGuire s'en vient nous en parler dans un instant. Okay.